Soyez richement bénis ce matin. On est déjà bénis avec tout ce qui s'est produit, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? On se réveille ce matin, n'est-ce pas? Je voudrais remercier avant tout, bien sûr, le Saint-Esprit dans cette unité qu'il nous donne ce matin. Pourquoi? À travers tous ceux qui ont parlé. Merci Jérémy pour l'introduction, merci pour la parole pour Anaïs, pour Alain qui a introduit la Sainte-Seine, parce que vous allez comprendre pourquoi c'est pratiquement le résumé du message, ou en tout cas l'introduction du message ce matin, de ce que Dieu veut faire pour nous ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut le croire par la foi avant?
Amen.
Alors tu peux lancer, compagnon d'œuvre, Philippe, s'il te plaît. Voilà, donc j'ai commencé la dernière fois. J'avais à cœur ce qui m'anime en ce moment, c'est demeurer en Christ. Et c'est par quoi a commencé Jérémy l'introduction. Avec tout ce qui arrive dans le monde, avec tous ces bruits de guerre, auprès ou au loin, avec tous les bruits de famine, de récession qui vont arriver, raison de plus ce matin de nous accrocher à cette phrase. Nous devons demeurer en Christ. Et le titre justement de ce message ce matin, sans Jésus, je ne peux rien faire. Est-ce qu'on peut dire, chacun peut proclamer, sans Jésus, je ne peux rien faire? Parce que c'est une vérité, oui, on peut faire des choses. Ça ne veut pas dire qu'on est des faiblards ou on ne fait rien. On peut faire des choses sans Jésus. Mais sans Jésus, on ne peut rien faire des choses pour Dieu. On ne peut rien faire des choses utiles à la vie éternelle. On ne peut rien faire des choses sans Jésus pour glorifier Dieu alors qu'on se dit chrétien. Oh. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Si je professe que je suis chrétien, je vis au nom de Jésus, donc sans Jésus, je ne peux rien faire. Et si je veux dire je suis chrétien et je fais rien sans venir à Jésus, ce n'est pas une vérité. Donc, soyons, c'est pas grave, ça ne va pas me perturber. Donc, et cette parole, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui a dit ces paroles dans Jean 15, 5, on va y venir. Mais Jésus a parlé cette parole pour dire, pour expliquer à ses disciples qu'il va bientôt partir, qu'il va bientôt passer par Gethsémané, qu'il va bientôt passer par la croix, qu'il va bientôt passer par la mort, qu'il va bientôt ressusciter et qu'il va monter au ciel. Donc il ne sera plus physiquement avec eux. C'est pour ça qu'il est en train de leur dire, voilà comment vous allez vivre sans ma présence physique. C'est pour ça qu'il leur dit, et il utilise, c'est pas pour rien, il utilise les paraboles ou les images de notre Seigneur. Il utilise à bon escient donc l'image de la vigne. Moi, je suis le cep et vous, les sarments. Dans le premier verset du chapitre 15, il a déjà dit ça et il insiste là-dessus. Et j'ai prêché là-dessus la dernière fois. Moi, je suis le vrai cep. Et vous êtes les sarments. Il a parlé du Père qui est le cultivateur, qui est le vigneron. Donc moi, je suis le cep et vous, les sarments. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à ses disciples. Aux disciples, celui qui porte le nom de Jésus, qui suit son maître. Et pas seulement de nom, mais avec une relation cœur à cœur. Donc il s'adresse ce matin, qui est disciple de Jésus ce matin? Alors, écoutons ce matin, je suis le sarment et Jésus est le cep. Et regardez avec cette belle image du sarment et du cep. Elle est belle cette image, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui attire l'œil? Le raisin, n'est-ce pas? Voilà les choses visibles. Mais le raisin ne vient pas comme ça. Le raisin provient de choses bien invisibles, d'un processus bien invisible pour que le raisin arrive visible comme ça. Vous êtes d'accord? Et c'est comme ça que le Seigneur veut qu'en tant que disciples, nous portions des fruits. Alors le cœur du message, le cœur de ce que Jésus a voulu leur dire ce soir-là, vous êtes mes disciples, portez des fruits à la gloire de Dieu. Amen. On va avancer. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là, c'est-à-dire celui qui est mon disciple, porte beaucoup de fruits. Donc, de la même façon que moi je demeure en vous, vous demeurez à moi, et à ce moment-là, si dans ces conditions-là, vous portez beaucoup de fruits. C'est pour ça qu'il a dit, sans moi, vous ne portez pas de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, donc il termine ce verset par « car sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Vous avez beau dire « je suis chrétien, je vais à la messe ou au culte tous les dimanches et dans ma vie, je ne fais rien qui glorifie Jésus ». Non, ce n'est pas vrai. Je ne porte pas de fruits. Je dois porter des fruits à la gloire de Dieu. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le sarment, donc, est complètement dépendant du cep, comme on le voit. Mais ça ne doit pas être, même si je suis dépendant de Jésus, ça ne doit pas être dans ma vie une faiblesse. C'est une grâce. Parce que si je dépends de Jésus, c'est la grâce qui va couler, n'est-ce pas? À travers moi. Si je demeure en Jésus. Et là, je vous dis, attention, j'ouvre les guillemets, à l'esprit d'indépendance. Ce n'est pas parce que j'ai un don, ou je suis dans le ministère, que je peux me passer de Jésus. Non, à chaque instant, tous les jours, n'est-ce pas, je demeure attaché et dépendant de Jésus. Amen. Je dois consulter Jésus, même si haut placé au niveau spirituel, alléluia, dans ma vie chrétienne. Attention à l'esprit d'indépendance, à mettre Dieu de côté sans le consulter chaque instant de la vie. Alors, sans moi, je vais développer ces deux points. D'un côté, sans moi, ça veut dire quoi? Et de l'autre côté, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, ça veut dire qu'il faut demeurer, être attaché à lui. C'est une relation d'intimité et pas une simple connaissance superficielle. Aller cœur à cœur en disant, ce n'est pas à développer ici, mais dans d'autres messages, le côté pratique. Quand on prend le baptême, et récemment les jeunes ont pris des baptêmes, qu'est-ce qu'on donne comme image quand on plonge dans les eaux et on ressort? En effet, si nous sommes devenus une même plante, on s'identifie avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est ça, cette première idée, cette relation d'intimité et pas superficielle. On est une plante avec le Seigneur. Et dans 1 Jean 4, 13, écoutez bien, nous connaissons que nous demeurons en lui, comment? Et qu'il demeure en nous, comment? En ce qu'il nous a donné de son esprit, c'est marqué. Bien sûr, il a envoyé son esprit. Et justement, il est parti au ciel, il nous envoie son esprit, et sa présence en nous, à travers nous, c'est par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça. Si je ne vis pas par l'esprit, c'est du blablabla de dire « je suis attaché à Jésus ». Non. Si je demeure en Jésus, c'est le Saint-Esprit qui m'atteste à mon cœur que je demeure en Jésus. Avec l'onction de son esprit, nous avons une parfaite communion avec lui. Nous pouvons avoir une communion intellectuelle, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il veut une parfaite communion spirituelle par l'onction de son esprit. Il y a aussi, dans cette idée, sans moi, une parfaite conformité du sarment avec le cep. En tout, le sarment, il est de la même nature, il est de la même vie, il est de la même structure, il est du même but que le cep. Le CEP, quand on utilise le mot CEP dans ce contexte, on parle de l'ensemble du plan de vigne. Ça veut dire quoi? On parle en même temps du CEP et de Sarmon. C'est une entité. Et Jésus, quand il parle « Je suis le CEP », il englobe en lui-même les sarments qui forment ainsi un corps dont il est la tête. Est-ce que vous savez ce matin que Jésus est notre tête, la tête de notre corps? Dans Colossiens 1, 18, il est la tête du corps de l'Église. L'Église, ça veut dire tous ceux qui croient en Jésus, en le Fils de Dieu, qui est leur sauveur, leur Seigneur. Amen. Ça forme le corps, et qui est à la tête de ce corps? C'est Jésus. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et Jésus, c'est le premier de cette nouvelle création. Amen. Afin d'être en tout le premier. Une question ce matin, même si elle est embarrassante. Est-ce qu'il est en tout en premier dans ma vie ce matin? Est-ce qu'on peut poser? Je me la pose avant tout moi. On se doit de la poser en tant que chrétien croyant. Est-ce qu'il est en tout? Est-ce que Jésus, il est en tout premier, le premier dans ma vie? Il a, écoutez, on parle de Dieu et comment, à propos de Jésus, il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême, écoutez bien, à l'Église et pas sur l'Église. Jésus n'est pas là pour dominer l'Église. Il est la tête de l'Église. Et il est à l'Église. Il est, avec toutes ses perfections, il est donné. C'est un cadeau à l'Église. Qui est son corps, à nouveau? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire, on hérite de cette plénitude. Est-ce qu'on vit cette plénitude de Jésus? Nous sommes son corps. Je ne crois pas que l'Église vit de la plénitude. En tout cas, qui est son corps, l'Église, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, on retrouve aussi cette idée d'être attaché à Christ et sans moi, on ne peut rien faire. Quand on prend la Sainte Cène, faites ceci en mémoire de moi, a dit Jésus. Et c'est quoi la Sainte Cène? On le dit à chaque fois, c'est une communion d'une part avec Jésus, avec ce qu'il a fait, on se rappelle de cela, et en même temps, c'est une communion les uns avec les... C'est le corps qui est là, qui communie ensemble. Et même l'apôtre Paul qui dit, toutes les fois que vous prenez le pain, que vous buvez de la coupe, vous vous rappelez l'œuvre du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, il est là, présent, au milieu de nous, jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que je garde cet attachement à Jésus, jusqu'à ce qu'il vienne? La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Oh, quand on boit le vin, oh, ce n'est pas ni du Porto, ni du vin du Beaujolais, c'est avant tout la communion au sang de Jésus. C'est une histoire de communion. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Je crois que nous sommes tous d'accord, mais nous avons à vivre, à nous rappeler chaque jour. Puisqu'il y a un seul pain, c'est une miche là, le pain. On parle ici de la miche de pain avec les cellules à l'intérieur. Car il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un seul pain. C'est ce qu'il veut dire, entre autres aussi, dans « sans moi, on forme ce corps ». Alors, on arrive au point « vous ne pouvez rien faire ». Oui, comme je l'ai dit au début, on peut faire des choses, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec Jésus? Et j'ai trouvé avec cette image du CEP, la Bible, la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous montre quelle est l'utilité du sarment. Mais je vous pose la question ce matin, Le sarment est utile à quoi? Quelle est sa fonction? C'est pas un piège, hein? Voilà, pour porter le fruit, Mais écoutez, ce que dit la Bible, quand on ne le porte pas pour Dieu. Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois, le sarment qui est parmi les arbres de la forêt? C'est-à-dire, si on compare le bois de la vigne à tous les arbres, à tous les bois des autres arbres, le hêtre avec tout ce qu'on peut faire avec, les cèdres du Liban avec tout ce qu'on peut faire, il nous pose cette question ce matin. Est-il utile à quelque chose? Prend-on de ce bois, écoutez bien, pour fabriquer un ouvrage? Est-ce qu'on n'a jamais vu un meuble avec un sarment? Le bois de sarment, le bois de vigne. Oh, bien, merci pour les réponses. En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque? Non. Mais alors, il sert à quoi? C'est Jésus qui utilise cette parabole. Le sarment est un bois sans valeur, mais en lui-même. C'est-à-dire que si vous le prenez à part, si vous le coupez, vous le détachez, en lui-même, il ne sert à rien. Il va tout de suite se dessécher. On continue. Voici, on le met au feu pour le consumer, pour dire qu'il va servir à quelque chose, n'est-ce pas? Pour allumer le barbecue, par exemple. Mais le feu en consume les deux bouts. Et le milieu brûle. Sera-t-il bon à quelque chose? Donc même si on va l'utiliser pour allumer le barbecue, il va vite se consumer. Donc il sert à quoi? Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage, combien moins lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé. En pourra-t-on faire quelque ouvrage? Quelle conclusion on peut tirer de cette image spirituelle? Si je suis un sarment, je ne dois pas être utile à ça. Je suis utile à rien. C'est pour ça l'intérêt d'être attaché à Christ, sans moi, sans moi. Vous voyez cette idée? Le sarment n'est bon que pour le feu, écoutez bien, mais il est très perméable et peut laisser passer une grande quantité de sève. Est-ce que dans ma vie, je peux laisser passer la vie de Jésus? Si Jésus est en moi, sinon je ne sers à rien. Si je me dis chrétien. Ok, vous avez vu? On peut tirer plusieurs conclusions de cela. Le sarment a une seule raison d'être, écoutez bien, un but auquel il est entièrement dédié, c'est rester uni au cep afin de porter du fruit. Sinon, ça ne sert à rien. Et pour nous, on peut dire la même chose spirituellement. Il ne s'agit pas pour le sarment de vivre pour le cep, mais simplement, écoutez bien, de laisser la vie du cep couler à travers lui. Amen. Ça veut dire quoi pour nous? C'est une image de la vie du croyant qui est en Christ, le vrai cep, et de cette vie de laquelle nous avons à vivre. Si je dis je vis en Christ, il faut que je laisse passer la vie de Christ. Et ce n'est pas moi qui vais vivre. Amen. Et l'apôtre Paul le dit très bien dans ce verset qu'on le cite à chaque fois. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ok, c'est un verset connu. On va le détailler. J'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire, moi, Antoine, je suis mort, je suis dans le tombeau, je suis sur la croix, j'ai été crucifié avec Christ. OK? Et si je vis, mais moi, je suis crucifié. Et si je vis, comment? On vient de dire, j'ai été crucifié. Comment on peut dire en même temps, si je vis? Parce qu'en Christ, je vis, n'est-ce pas? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. « Si je vis maintenant dans la chair, dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je ne vis plus comme avant. Je suis une nouvelle création. Si je veux continuer à vivre comme avant, pourquoi je dis je suis en Christ? Je ne suis pas attaché au Christ. Qui m'a aimé donc et qui s'est livré lui-même pour moi. On le rappelle à chaque fois à la Sainte Cène. Il nous a aimés. Il a été à la croix pour nous sauver, pour nous donner une nouvelle vie. Amen. La vie que je vis maintenant, si je veux paraphraser, dans mon corps humain, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Et là, c'est une confiance et une dépendance, pas ponctuelle, mais continuelle, tous les jours. Sinon, on sera obligé de revenir et à l'appel à la fin, on reviendra. Donc, la règle de vie pour moi, croyant, c'est uniquement Christ. Ça doit être la règle de vie dans ma vie de tous les jours, uniquement Christ, et non pas la loi ou d'autres règles de vie que je vais ajouter. Christ, plus, Christ, plus, rien d'autre. Ça doit être ma règle de vie de tous les jours. Si je prétends être Christ, être chrétien attaché au Christ. Alors, porter de fruits. On a dit, l'unique but du sermon est de porter du fruit, donc être attaché. Donc, c'est une mission des vrais disciples qui est à la gloire de Dieu. Et c'est Jésus qui le dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, si je dis que je suis disciple de Jésus, j'ai une responsabilité de porter des fruits à la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous sommes laissés dans ce monde, c'est ce que Dieu attend de nous. Une des dernières paroles de Jésus dans Matthieu, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Il n'a pas dit « Allez et sauvez tout le monde. » Jésus les a déjà sauvés. Il a dit « Allez et faites des disciples. » Et qu'est-ce qu'il peut faire des disciples si ce n'est le disciple? Oh, si je ne suis pas un disciple de Jésus, je ne peux pas former un autre disciple à Jésus. C'est dans la communion avec le Seigneur que nous recevons les forces et les directions pour porter de fruits pour Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans la prière de Jésus avant qu'il parte, il prie pour nous auprès du Père, « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde à propos des disciples et je vais à toi. » Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. Et cette unité avec Christ, elle doit être la même que l'unité qu'il y a entre Christ et son Père. Amen. Alors, j'aime bien cela. De quel fruit parle-t-on ? De quel fruit s'agit-il? J'aime bien ces questions. C'est quoi ça, disait ma fille Sarah. De quel fruit parle-t-on? Vous savez, on n'a jamais vu des grappes avec des raisins à trois couleurs différentes, n'est-ce pas? C'est un petit montage pour montrer de quel fruit parle-t-on? De quel fruit on va porter? Est-ce que c'est le caractère, mon caractère? Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que les services ou les œuvres ou autre chose? De quel fruit parle-t-on dans ces versets? Et nous donnons parfois plus d'importance au sujet du service qu'à celui du fruit. C'est-à-dire, on veut tellement faire des choses pour Dieu qu'on oublie Dieu. Vous voyez déjà la réponse. Et là aussi, voilà un autre verset qu'on cite, mais on cite à moitié. On cite, on va faire des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais quel est le contexte? Car nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous a créés, une nouvelle création, n'est-ce pas? Ayant été créés, comment? En Christ, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire les bonnes œuvres sont faites si je suis créé en Christ. Oh! Est-ce que nous sommes créés en Jésus-Christ? Oh, est-ce que vous êtes d'accord? Si je suis d'accord, je suis né de nouveau, c'est-à-dire créé, je suis une nouvelle création en Jésus-Christ, donc j'ai des œuvres à ce moment-là préparées d'avance par Dieu, par Jésus-Christ, pour que je puisse les pratiquer à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Il y a la foi et les œuvres de la foi. On ne peut pas les séparer. D'ailleurs, il y a un débat entre l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques. On le dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et il y a un verset qui m'a interpellé à ce sujet. Jacques qui dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Je te montrerai la foi, pas ma foi, mais la foi par mes œuvres, parce que je suis en Christ. Alors, porter des fruits, une autre question, ça veut dire quoi pour Dieu, porter du fruit? Ce n'est pas une question de faire. Pour Dieu, c'est une question d'être quand il pose cette question. Ce que je suis est plus important de ce que je fais, de ce que je vais faire. C'est l'être et le faire. Quelle est ma position? On en a parlé ce matin. Ma position détermine ce que je dispose pour faire. Ce que je suis est plus important pour Dieu de ce que je fais. Et ce que je suis va influencer ce que je fais, ce que je vais faire. Écoutez bien, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est Jésus qui parle. Mais moi, je vous ai choisi. Elle a cité, au dernier culte, Magda a cité cela. Et je vous ai établi, écoutez, l'œuvre de Dieu, cette œuvre de nouvelle création, ça ne vient pas de mes propres forces, ça vient de Dieu. Voilà ce que Dieu fait. À chaque fois, tout part de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, premièrement. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. C'est un fruit qui va demeurer. Ce n'est pas un fruit ponctuel, éphémère. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon œuvre. C'est pour ça, avant tout, ce que je suis. Est-ce que je suis l'œuvre de Dieu? Est-ce que je suis choisi par Dieu? Est-ce que je suis choisi par Dieu? Est-ce que je suis établi par Dieu? Donc, les œuvres vont découler naturellement. Puisque je choisis, j'ai été choisi, j'ai été établi par Dieu lui-même. Ce qui importe donc dans notre marche, ce n'est pas mon travail pour Dieu, mais plutôt le travail que Dieu fait à travers moi. Parce que souvent on dit « Ah, je travaille pour Dieu ». Dieu n'a pas besoin qu'on travaille pour lui. Dieu a besoin qu'il nous donne du travail. Dieu veut travailler à travers nous. Alléluia. Lorsque je laisse Dieu agir dans mon cœur et dans ma vie, c'est ça qui est le plus important pour Dieu, et pas travailler pour Dieu. Est-ce qu'on peut laisser Dieu, chaque jour, agir dans notre vie? Ce n'est pas la tendance de la chair, ce n'est pas notre tendance naturelle, mais c'est un processus, c'est un apprentissage. Nous devons apprendre cette vie chrétienne, nouvelle, puisqu'on est né une nouvelle création. Alors, je voudrais passer maintenant, pour terminer, au côté pratique. Parce que j'entends vos questions, mais comment ça marche pratiquement, dans la vie de tous les jours? Comment on peut les vivre? Eh bien, il n'y a pas plus que les exemples vivants des hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu sont avant tout des hommes, comme vous et moi, des êtres humains, et ils vivent par Dieu, n'est-ce pas? Et donc, on va voir comment ils sont attachés et sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Comment Dieu, c'était la source pour toute chose dans leur vie. L'exemple de vie du roi David. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle du roi David? Waouh, c'est très bien. Pourtant, il a été meurtrier avec préméditation. Il était adultère. Il aimait beaucoup la guerre, la violence. Il était rebelle des fois. Il aime beaucoup tuer. Mais le Saint-Esprit a retenu ça. C'est l'apôtre Paul qui rentre dans un temple. Il parle à tous les Juifs. Il explique l'histoire d'Israël et qu'il leur dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et pourquoi tout cela? On va voir comment Dieu fonctionne. Comme ça, on va comprendre comment Dieu va fonctionner dans notre vie. On commence par l'onction royale de David. Vous vous rappelez Dieu a demandé, parce que Saül, ça ne marchait plus, a demandé à Samuel, le prophète qui a reçu une double onction d'Élie, donc il doit tout connaître, d'aller chez Isaïe, qui, entre parenthèses, à Bethléem, d'aller oindre ce que Dieu a vu. Il n'a pas dit le nom. Bref, il arrive, il fait passer en revue 7 fils. Il pensait Samuel, c'était eux. Et Dieu lui dit, mais non, c'est pas lui. Oh, il reste quelqu'un. Il a dit à Isaïe, son père, il doit rester quelqu'un. Oui, c'est celui qui est avec les moutons, qui est dans les champs. On va le faire venir. Écoutez bien, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel avait déjà regardé au cœur de David quand il était à paître les moutons ou les brebis. Dieu regarde nos cœurs chacun, tous les jours. Il ne faut pas oublier ça. Et s'il nous a choisis, c'est parce qu'il a vu notre cœur. Amen. Alléluia. Et l'histoire de David contre Goliath, vous connaissez ça. On l'utilise à tout vent. À un moment donné, on a demandé à David d'aller emmener la nourriture à ses frères qui étaient postés devant Goliath dans l'armée d'Israël. Il arrive, il entend ce Goliath parler, insulter le Dieu d'Israël. Il dit, c'est quoi cette histoire? Et il dit au roi Saül, c'est moi, je vais aller me confronter. Mais toi, tu es tout adolescent, tout enfant, tu ne peux rien. Tu n'as même pas été dans une école de guerre. Regarde ce qu'il lui a dit. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré, donc c'est l'Éternel, il commence, c'est pas sa propre force, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et je ne voulais pas mettre tous les versets, parce que pourquoi David dit encore? Parce qu'il a commencé par dire, vous le lirez, vous vérifierez, je ne vous raconte pas des bobards, vous vérifierez juste avant, il a dit, oui, moi, j'ai enlevé les brebis de la gueule des lions, de la gueule de l'ours, je les ai enlevées. Et il n'a pas dit par mes propres forces. Et là, c'est pour ça qu'il dit, dis encore que c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui m'a donné la force de délivrer de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera. Amen. Alors, il a même, David, été cité comme exemple auprès de ces rois qui, pour maintenir leur royaume dans Juda ou dans Israël, à cause de David, sinon ils seraient déportés, mais ça a été décalé. On parle du roi Abiam, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Mais, encore une fois, à cause de David, l'Éternel, selon son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem. Donc là, il lui donna une deuxième chance à cause de David. qui est selon le cœur de l'Éternel. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté. Voilà la clarté de Dieu. Il n'a pas omis tout ça, excepté dans l'affaire d'Uri, le Héthien, l'affaire d'adultère et l'affaire de meurtre. Mais pourquoi il est selon le cœur de Dieu? C'est parce que quand il y a eu tout ça, quand le prophète lui a dit « Tu as péché contre l'Éternel », il n'a pas dit « Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un endurci ». Il a dit « Pardon », il a demandé pardon au Seigneur. Il est revenu à l'Éternel. Et si vous voulez retenir quelque chose ce matin de la vie de David, même vous pouvez le retenir par cœur, David qui disait « Sens de moi, mon Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi vers la vie éternelle. » C'est le psaume 39, les deux derniers versets. Est-ce qu'on peut dire comme David ce matin, « Oh Dieu, sonde mon cœur, éprouve-moi, toi qui connais tout, regarde si je suis sur une mauvaise voie. » On continue, deuxième personnage, un homme de Dieu. J'aime beaucoup, comme je vous le dis toujours, l'exemple de vie de Paul. Paul, ici, on parle de, Dieu qui sonde les cœurs. Vous savez, l'apôtre Paul, il était avant un persécuteur de l'Église. Il était tellement zélé pour la bonne parole, parce que Dieu connaissait son cœur avec son zèle. Il faut à un moment donné que ce zèle soit pour la vraie vie de Dieu. C'est pour ça qu'il l'a touché. Donc, des révélations qui ont changé le cours de sa vie. Dieu a eu recours à des révélations. Il était tellement fougueux, tellement plein de zèle, Dieu a eu recours à des révélations pour changer le cours de la vie de l'apôtre Paul. Et la première révélation, où vous connaissez le chemin de Damas, comment il a été converti, et à un moment donné, on dit, mais le Seigneur lui dit à Ananias, qui ne voulait pas aller prier pour l'apôtre Paul, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils. C'est un instrument que j'ai choisi. C'est l'Éternel qui, pourtant, il persécutait l'Église, il a choisi. La deuxième révélation, il a eu des visions. Vous vous rappelez de cette vision où il est monté au troisième ciel en présence du trône de Dieu, le paradis. Je connais un homme en Christ. Au lieu de dire « moi, Paul », il dit « je connais un homme en Christ, qui, il y a 14 ans, ce fut dans le corps, je ne sais si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, toujours il se remet à Dieu, je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. » Et au lieu de s'enorgueillir, de dire « voilà, maintenant je suis champion spirituel, vous pouvez me demander ce que vous voulez, j'ai été voir la présence de Dieu, je suis tout seul », qu'est-ce qu'il dit ? Pour ne pas être enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses visions et de ses révélations. Voilà ce qu'il dit. Trois fois, bon, il a eu une écharde dans la chair. Il a dit, trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. C'est ce qui cause l'écharde. Et il m'a dit, le Seigneur, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Même s'il est monté ravi au troisième ciel. Non, non, ce n'est pas à cause de ça qu'il va. Il y a toujours la prééminence de Dieu. C'est Dieu qui est la source de tout. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Si on peut dire toutes ces paroles pour notre vie et l'appliquer sur notre vie. Et il témoigne, pour terminer, sur l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 5, « Par la grâce de Dieu, écoutez bien, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. C'est-à-dire, il ne dédaigne pas la grâce. Il est conscient, s'il est ce qu'il est, c'est par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et cette grâce, parce que c'est tellement important dans sa vie, il ne la laisse pas en vain. Elle va le faire travailler, travailler pour la gloire de Dieu. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Est-ce qu'on peut prendre des résolutions ce matin que je veux travailler pour la gloire de Dieu, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Et si on retient aussi de la vie de Paul quelque chose, cette phrase, « Je puis tout, toute chose en celui qui me fortifie. » Et Magda, je demande à Magda si tu peux venir. Et là, je veux parler, vous allez être surpris, de notre Seigneur Jésus. L'exemple de vie de Jésus, fils de l'homme. On connaît l'histoire au début, jusqu'à 12 ans, avec la fête de Bar Mitzvah, où il peut être commencé à lire la Torah. Et depuis, on n'a rien. Avant sa mission, avant le début de sa mission. Il y en a qui disent qu'il a été en Inde, il a été élevé. C'est plein de gens qui disent oui, ici, il a fait tous ses miracles parce qu'il a été voir des marabouts, des machins. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a fait Jésus entre 12 ans et 30 ans? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est naturlich, comme on dit. Mais devant Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour Dieu? Parce que c'est un homme de Dieu, n'est-ce pas? Écoutez bien, un verset qui va dire tout ça. Et Jésus croissait en sagesse, en stature en tant qu'homme et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est l'école de préparation, alléluia, à travailler avec Dieu. Amen. On ne peut pas se projeter comme ça pour travailler avec Dieu. Il faut la croissance dans la sagesse devant Dieu et devant les hommes. Et à cause de cela, vous allez voir comment c'est Dieu, vous savez bien, c'est le Fils de Dieu que Dieu l'a choisi. Et au moment de son baptême, les cieux sont ouverts et une voix qui s'est écriée, « Tu es mon Fils !» Que tout le monde sache, c'est le Fils de Dieu. Je suis ce que je suis. En toi, j'ai mis toute mon affection. Tu peux aller maintenant dans la mission. Merci Seigneur de toucher les cœurs. Merci de toucher les cœurs pour que ton onction les touche. On a parlé à deux reprises de 1 Jean 5,19. Moi, je vous parle ce matin de Jean 5,19. On voit comment Dieu, en Jésus, comment Jésus, homme de Dieu, a travaillé dans le même contexte. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et c'est ce qu'il veut ce matin. De la même façon qu'il procédait Jésus avec son Père, il veut qu'on procède avec lui par son Esprit pour faire des choses, les bonnes œuvres préparées d'avance. Il y a deux phrases qui m'ont interpellé, qui doivent nous interpeller ce matin. Avant que Jésus ait été envoyé dans le désert, c'est marqué, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit par l'Esprit dans le désert. Qu'est-ce qui veut être ce matin rempli du Saint-Esprit? Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Il a été tenté dans le désert 3 fois par Satan. Il n'a pas réussi et Satan est parti. Qu'est-ce qui est marqué juste après? Jésus, à nouveau, après la tentation, le temps d'épreuve, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée pour le service. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit, remplis du Saint-Esprit, pour vivre de Dieu, pour être attachés à Dieu, pour dire sans Dieu je ne peux rien faire. Mais avec, quand je suis rempli du Saint-Esprit, alors je puis tout par celui qui me fortifie. Et voilà l'apôtre Pierre qui résume la vie de Jésus sur terre. Écoutez bien, dans vos cœurs, ça doit être une prière. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et il veut le faire pour nous ce matin. Il veut nous oindre de force et d'onction du Saint-Esprit qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et comment ça? Car Dieu était avec lui. Qu'est-ce qu'il croit que Dieu est avec lui ce matin? Ou qu'est-ce qu'il cherche ou demande à Dieu d'être avec lui ce matin? Et sans Dieu, on ne peut rien faire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, je termine avec 2 appels. C'est Jésus qui parle encore dans un jour de fête. Et ce matin, c'est un jour de fête. Parce qu'on vient adorer Dieu, on vient à une invitation de l'Éternel. C'est Jésus qui dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un ce matin a soif, même si je suis chrétien depuis un moment, mais je peux passer dans des temps de sécheresse. Si quelqu'un a soif ce matin, qu'il vienne à moi, dit Jésus. Qu'il vienne à ma présence, qu'il se tourne son regard vers moi, comme a dit Jérémie, qu'il fixe son regard vers moi, la source. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, pas seulement de venir, pas seulement de dire oui, je viens, mais qu'il boive. Ça veut dire quoi qu'il boive? Ça veut dire qu'il communie avec, qu'il rentre dans cette relation d'intimité, de dépendance, de confiance. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus ce matin et qu'il boive. Est-ce que quelqu'un veut faire cela? Simplement, on lève la main. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit Jésus. Personne ne regarde. C'est vous, vous faites ça à Dieu. C'est une demande qui vient. Si c'est sincère de votre cœur, ça doit venir à Dieu. C'est pas les regards des uns et des autres sont pas importants ce matin. C'est le regard de Dieu qui regarde nos cœurs. Ce matin, Jésus, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'est-ce qui se produit? Celui qui croit en moi, c'est-à-dire si je viens à Jésus, je crois en lui. Alors, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est des fleuves, c'est pas un petit filet d'eau, c'est pas un ruissellement, c'est des fleuves, c'est des torrents d'eau vive, c'est des cascades comme on voit dans l'image, dans la photo. C'est des fleuves d'eau vive qui vont couler parce que c'est le fruit de notre attachement à Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si je viens à Jésus et que je commence à boire, alors des fleuves d'eau vive. Et puis, dans d'autres traductions, celui qui croit en moi, de lui s'échapperont des fleuves d'eau vive pour les autres. Les fleuves d'eau vive, ce n'est pas uniquement pour moi, je deviens sinon la mer morte. Les fleuves d'eau vive, c'est pour les autres. Si je suis touché par la grâce de Dieu qui est agissante en moi doit toucher les autres. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela, si vous n'êtes pas encore convaincu, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Est-ce que quelqu'un ce matin, il croit en Jésus? Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Est-ce que Jésus est glorifié? Donc, si Jésus est glorifié, à tous ceux qui croient en Jésus, des fleuves d'eau vive, il envoie le Saint-Esprit qui va nous remplir ce matin. Alléluia. Voulez-vous être rempli du Saint-Esprit ce matin? Celui qui veut être, qui cherche à être, qui croit en Jésus, qui veut être rempli de l'Esprit Saint, qui se lève à sa place maintenant. Merci Seigneur, merci Seigneur. Celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive s'échapperont de son sein, alléluia, vers les autres. Même toi qui es chrétien et qui vis en ce moment une période de difficulté, l'apôtre Paul dit, soyez, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Ça veut dire, soyez continuellement en train d'être remplis de l'Esprit de Dieu. C'est pas seulement ce matin, c'est pour recharger les batteries, c'est tous les jours. Soyez continuellement en train d'être remplis de l'Esprit Saint. Quelle chambre vous avez choisi? On va continuer, restez debout, on va prier. Soyez remplis, soyez que l'Esprit de Dieu maintenant. Vous allez vivre des choses dans votre sein, c'est-à-dire dans votre fort intérieur. Et si vous sentez, commencez à louer le Seigneur, même s'il y a une parole qui n'est pas intelligible, vous pouvez la prononcer maintenant au nom de Jésus. Soyez, comme dit l'Écriture, vous qui croyez en Jésus, soyez remplis de l'Esprit Saint. Que l'Esprit de Dieu vous remplisse et qu'il déborde, que les fleuves s'échapperont, les fleuves de vie s'échapperont de votre sein. Louez le Seigneur maintenant, avec votre langue ou avec le français ou la langue de l'Esprit. Alléluia. Soyez maintenant remplis de l'Esprit pour la gloire de Dieu.